Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. On a tendance en France à ne pas prendre les Italiens au sérieux et on a tort. Pour la première fois en Europe, dans l'un des 6 pays fondateurs de l'unification du continent, deux formations populistes, deux mouvements anti-système, deux partis eurosceptiques, pour ne pas dire plus, arrivent ensemble au pouvoir, l'un issu de la droite extrême, l'autre d'une mouvance libertaire, ondulant avec les humeurs de l'opinion publique. De ce mariage baroque qui inquiète les tenants de l'ordre établi à Rome, à Bruxelles et dans les grandes capitales, mais aussi tous ceux qui savent que l'histoire dans notre continent redevient tragique, selon l'expression d'Emmanuel Macron. De ce mariage, donc, doit naître un gouvernement dont la direction a été confiée à un professeur de droit jusque-là inconnu. C'est d'évidence un tournant qui fera date, mais un tournant vers quoi ? Quelle politique Matteo Salvini de la Ligue du Nord et Luigi Di Maio du mouvement 5 étoiles vont-ils mettre en œuvre une fois le temps des incantations et des tractations passé ? Vont-ils sortir le pays du marasme économique, aplanir ses énormes disparités sociales et géographiques, expulser les immigrants, sommer les partenaires européens de changer du tout au tout les règles du jeu ? Puisqu'ils sont là, quel crédit faut-il leur accorder ? Comment engager la partie pour que l'Europe ne plonge pas davantage dans les divisions et l'immobilisme ? L'Italie fait-elle aujourd'hui figure d'anomalie ou d'avant-garde dans un continent en proie au doute ? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous, Marc Lazare. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du Centre d'Histoire à Sciences Po et aussi de la School of Government à l'Université Louis de Rome. Ettore Recchi, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'Institut européen de Florence et directeur de l'école doctorale de sociologie à Sciences Po Paris. Francesco Saraceno, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques. C'est un complot italien ce matin, mais c'est bien normal. Et de Berlin, merci à Daniela Schwarzer, qui dirige le Conseil allemand des relations étrangères. Marc Lazare, comment et pourquoi l'Italie, les Italiens, en sont-ils arrivés là ?
Oh là là, ça c'est une vaste question, mais je crois qu'il y a plusieurs éléments qui jouent. Le premier, c'est la situation économique et sociale de ce pays. Francesco Saraceno en parlera bien mieux que moi, mais un pays qui a connu une véritable régression économique, un chômage qui s'est accru considérablement, des inégalités qui se sont creusées, une pauvreté qui s'est diffusée. Alors c'est vrai que depuis un an, les indices économiques sont améliorés, mais je crois que dans la perception des Italiens, ce qu'ils retiennent, c'est justement cette dégradation économique et sociale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une longue tendance depuis des années, un long processus de défiance profonde des Italiens à l'égard des institutions politiques et de leur classe politique, et donc l'aspiration chaque fois à essayer de trouver du nouveau. Et le troisième point, c'est la question des migrants. Ça, c'est incontestablement la situation. Il y a eu un véritable choc migratoire. Il faut savoir qu'il y a 5 millions d'immigrés réguliers en Italie, c'est-à-dire 4 fois plus qu'en 2001. Il y a une grande proportion d'immigrés clandestins et surtout il y a eu ce flux de migrants arrivés dans des conditions dramatiques sur les côtes italiennes avec cette impression et même ce sentiment et cette réalité pour les Italiens qu'ils ont été abandonnés par l'Union européenne. Ouais. Et c'est le dernier point, ce pays qui était parmi les plus europhiles, ça a commencé au milieu des années 90, on en avait parlé d'ailleurs dans une de vos émissions précédentes, est devenu un pays de plus en plus critique à l'égard de l'Union européenne. Donc ça fait beaucoup, beaucoup d'ingrédients qui explique en partie, mais je crois de manière assez substantielle, la progression du mouvement 5 étoiles, plus de 32% de suffrages pour la Chambre des députés le 4 mars, et la Ligue, qu'on n'appelle plus la Ligue du Nord, la Ligue qui est en fait inspirée de plus en plus par le Front National, qui a obtenu plus de 17% des suffrages, alors qu'elle en avait eu 4% en 2013, et qui est créditée actuellement dans toutes les enquêtes d'opinion, au cas où les Italiens seraient appelés aux urnes de nouveau, elle est créditée de 25% des voix.
25%, oui. Donc elle continue de monter. L'opinion en Italie aujourd'hui, telle qu'elle est mesurée, elle soutient comment dire, ce gouvernement en gestation, on sait ce matin que c'est pas encore fait. Hein.
Alors, c'est pas encore fait, mais on a eu une très bonne enquête par un des meilleurs sondagistes italiens qui s'appelle Ilvo Diamanti, qui fait régulièrement des enquêtes d'opinion. On considère comme un des deux ou trois meilleurs sondagistes. Et il montrait dimanche dernier, dans un sondage qui a été publié par La Repubblica, que 60% des Italiens soutenaient la perspective de ce gouvernement Mouvement 5 étoiles Ligue. Donc oui, il y a incontestablement une opinion publique qui aspire à voir ce gouvernement se former.
Et une opinion publique qui, à la différence des périodes précédentes, est travaillée en profondeur par les réseaux sociaux, ce qui était d'ailleurs la grande trouvaille du Mouvement 5 étoiles, enfin du créateur qui est décédé depuis, je crois, du Mouvement 5 étoiles.
Tout à fait. Ça c'est un élément important parce que c'est quelque chose qu'on voit en Italie, mais qu'on voit partout. C'est-à-dire ce qu'on appelle, pour aller vite, ces populismes, aujourd'hui, ont une longueur d'avance par rapport aux partis traditionnels. C'est-à-dire qu'ils ont compris l'impact considérable, j'emploie même une autre expression, la révolution du numérique en politique. Et effectivement, le Mouvement 5 étoiles a beaucoup utilisé ça. C'est un mouvement qui n'existe pas concrètement. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas de siège du Mouvement 5 étoiles dans les villes ou les villages italiens, ça n'existe pas, il existe virtuellement et il existe par justement toutes les plateformes numériques, dont une, de manière très symbolique, s'appelle Rousseau, allusion à Jean-Jacques Rousseau, et même s'il y a aussi une très grande verticalité, c'est-à-dire que le pouvoir appartient aux leaders, mais c'est le principe même justement des réseaux sociaux. Donc ça c'est un élément fondamental et d'ailleurs, quand on lit le contrat du gouvernement, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, il y a tout un développement sur la démocratie directe et la nécessité d'étendre les procédures de référendum. Jusqu'ici, en Italie, on avait des référendums abrogatifs de loi, et ils proposent non seulement de multiplier ces référendums, mais aussi d'avoir des référendums de proposition, ce qui d'ailleurs supposerait un changement de la Constitution, qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas la majorité dans les deux chambres, la majorité qualifiée pour l'obtenir. Mais c'est tout à fait, à mes yeux, symptomatique de ce qu'ils veulent instaurer en Italie.
Et où en est la composition du gouvernement ce samedi matin ?
Alors apparemment, donc M. Giuseppe Conte essaye de former un gouvernement. Une procédure assez étonnante, il est allé hier pour ce qu'il appelle un entretien informel avec le président de la République qui n'était pas prévu. D'après les indiscrétions qui sont sorties, ça achoppe sur une question, c'est qu'est-ce qui sera le ministre de l'économie et des finances ? Alors, il ne faut jamais oublier que l'article 92 de la Constitution précise bien que le président de la République nomme un président du Conseil potentiel, c'est le cas de M. Giuseppe Conte, mais que le président de la République nomme les ministres proposés par le président du Conseil. Et apparemment, ça achoppe sur un ministre déterminant aux yeux du président Mattarella, c'est-à-dire le président de la République, c'est de savoir qu'est-ce qui sera le ministre de l'économie et de la finance. La Ligue a proposé un monsieur, Paolo Savona, qui est quelqu'un qui a une très beau curriculum vitae.
81 ans.
82 ans même, je crois. Enfin, peu importe, un monsieur qui a une certaine expérience, disons, et qui a occupé des fonctions très importantes, mais qui est connu pour, un, son hostilité à la zone euro et deux, son hostilité totale à l'Allemagne. Ça fait beaucoup. Et par conséquent, le président Mattarella a fait savoir que pour le moment, il n'en était pas question. Donc là, on a peut-être en ce moment, au moment où on parle, le début d'une crise qui n'est plus simplement politique, mais qui pourrait être une crise institutionnelle. La Ligue et le Mouvement 5 étoiles sont très fermes et disent en gros, on a gagné les élections, donc on a la légitimité populaire. Toi, monsieur Mattarella, tu as été élu par la précédente assemblée, c'est-à-dire Chambre des députés et Sénat, et tu dois nous obéir. Et le président de la République dit non, moi je dois appliquer la Constitution. Là, il y a quelque chose qui se noue qui pourrait être très très grave en Italie et par conséquent en Europe.
Francesco Saraceno, le programme économique dans ce contrat qui donc, c'est pas un programme, hein, c'est intéressant d'ailleurs la formulation et la manière dont ce contrat est rédigé, avec beaucoup de flou d'ailleurs, mais le programme économique paraît vraiment de briques et de broc.
Oui, il y a en fait c'est un contrat précisément parce que les deux programmes électoraux des deux partis était assez divergent sur des points substantiels. Donc il y a eu une longue tractation qui a duré 80 jours en fait pour aboutir à une plateforme commune où on arrive à avoir une intersection pas nulle des propositions des politiques économiques, et en général des politiques générales et en particulier sur l'économie, qui a abouti à quelque chose qui est un peu contradictoire par certains aspects. Et qui est aussi, moi je pense, un peu dangereux du point de vue économique. Dans le sens que, bon, il y a, tout le monde s'est focalisé dans les 10 derniers jours sur l'augmentation du déficit public potentiel. Si on somme les coûts de toutes les mesures qui ont été proposées, on arrive à 100 milliards et à un déficit qui irait en 2019 à plus que 5% du PIB, donc bien au-delà des limites européennes. Et, mais il y a, je crois, un peu plus que ça, c'est-à-dire tout ça, ça peut se justifier, et peut-être si on l'étale un peu dans les temps, ça peut même, on peut même les rendre compatibles avec les normes européennes, avec une gestion de la dette qui ne mène pas à une crise financière. Donc tout ça, on est dans les limites du possible, même s'il y a des opinions très différentes. En revanche, je pense qu'on a un peu passé sous silence un aspect très, très important de ces programmes économiques, qui est l'aspect très agressif. En particulier, la mesure phare de ce programme, qui coûte 50 milliards par ailleurs, c'est l'introduction d'une flat tax, d'une semi-flat tax.
Donc des baisses massives d'impôts.
Oui, en fait, il propose d'instaurer deux seuls taux d'imposition à 15% et à 20%. Donc, on simplifie énormément les échelons de la taxation, avec une toute petite exemption à 8 000 euros pour les classes populaires. Et donc, on rend le système beaucoup plus régressif. On perd beaucoup la progressivité. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la progressivité de l'impôt est inscrite dans la Constitution dont parlait Marc il y a quelques minutes. Donc, il pourrait aussi y avoir des problèmes de constitutionnalité. Mais à part ça, il y a une doctrine économique derrière ça qui date des années 70 et qui a été depuis décrédibilisée.
Oui, qui date de Reagan. Je lisais part une comparaison avec Reagan, mais on peut dire aussi qu'il y a une comparaison avec le programme économique de Donald Trump.
En fait, oui. En fait, il y a un mélange de deux doctrines. La première, c'est la théorie du ruissellement, c'est impossible à prononcer pour moi, c'est le trickle-down en anglais. C'est-à-dire l'idée qu'on donne aux riches, les riches produisent et tout ça, ça percole vers le reste de la société. Et la deuxième, c'est que si on baisse les taux d'imposition, l'activité économique augmente et donc les recettes fiscales augmentent. Et donc une baisse du taux d'imposition, si le taux d'imposition est trop élevé, va faire améliorer les finances publiques. Et ça, c'est la courbe de Laffer, ça s'appelle. Ouais. Et les deux théories ont été largement décrédibilisées par la théorie et par l'analyse empirique depuis. Et donc, et surtout, penser à toute la littérature, les discussions qu'on a eues sur l'inégalité, sur la montée de l'inégalité dans les 10-15 dernières années, et sur l'effet que l'inégalité a sur la performance économique et pas seulement sur des problèmes d'éthique et de justice sociale, et tout ça, ça nous mène à des recettes qui sont vraiment orientées vers le passé. C'est ça qui me choque le plus et qui, paradoxalement, est passé un peu sous silence parce que tout le monde se focalise aujourd'hui sur le spread des taux de la dette italienne.
Oui, mais alors ça, il faut dire que c'est spectaculaire parce qu'en quelques jours, donc le spread, vous me corrigez, professeur, le spread, c'est la différence entre les taux allemands et italiens. Et ils ont presque doublé en quelques jours, alors que les marchés financiers étaient restés bizarrement très calmes, en tout cas jusqu'à l'annonce de la désignation du président du Conseil.
Oui, le spread, il a augmenté. Et moi, je ne suis pas trop préoccupé par ça, parce qu'au moins jusqu'à la fin 2018, et probablement bien dans 2019, tous les marchés financiers européens sont dopés par la Banque Centrale Européenne.
Oui, mais ça, c'est fini en principe.
Ça va finir,
oui, mais voilà, il y a
au moins un an de plus pour ça. Donc moi, les spreads d'aujourd'hui, je ne les regarde même pas. Je comprends.
Mais il y a beaucoup d'argent aussi qui a fui l'Italie, hein, d'après ce que je lisais.
Ça, c'est une autre histoire. Moi, je trouve qu'il faut que le gouvernement, il faut que ce gouvernement se mette en place vite. Même si moi, personnellement, ce n'est pas un gouvernement que j'ai voté, que j'aurais souhaité, mais il faut qu'il se mette en place vite parce que l'incertitude pour les marchés financiers, c'est la pire des maladies.
Allons à Berlin vous rejoindre, Daniela Schwarzer. Bonjour, merci d'être avec nous par téléphone. Je rappelle que vous dirigez le Conseil allemand des relations étrangères. Quelle est l'interprétation que l'on donne à Berlin de cette gestation difficile d'un nouveau gouvernement en Italie?
Bonjour Christine. Effectivement, les risques qui ont été évoqués ces dernières minutes sont vus très clairement à Berlin. C'est d'abord l'analyse de la situation économique du pays avec les promesses qu'a fait ce nouveau gouvernement sur les dépenses publiques et l'évolution des impôts. Alors, y a une crainte notamment pour la zone euro, c'est-à-dire un possible retour de la crise au sein de la zone euro par l'Italie. Il y a aussi la situation des banques qui n'est pas tout à fait stable. Et en deuxième lieu, il y a évidemment une crainte qu'un gouvernement arrive au pouvoir, comme cela a été dit, qui est anti-européen, anti-euro, très agressif vis-à-vis de l'Allemagne, dans une situation où l'ordre du jour européen est très très chargé et le gouvernement allemand est en train toujours de formuler sa propre réponse aux propositions qu'a présenté le président français Macron.
Mais voilà. Précisément, est-ce que le choc italien va pousser la coalition au pouvoir en Allemagne à mettre encore davantage les pieds sur le frein, ou au contraire, est-ce que ça peut être une prise de conscience comme Emmanuel Macron le souhaitait quand il a reçu le prix Charlemagne et qu'il a dit à Madame Merkel, en gros, c'est quand même le moment de bouger.
À mon avis, la conscience qu'il faut agir en Europe est là, et non seulement depuis les discours d'Emmanuel Macron. L'Allemagne observe de très près, notamment depuis le début de la crise de l'endettement et des banques au sein de la zone euro en 2010, ce risque d'un clivage entre le sud et le nord de la zone euro. Et plus récemment, on parle aussi d'une division Est-Ouest au sein de la zone euro, au sein de l'UE. Ouais. Et l'Allemagne se trouve vraiment au milieu. Et donc la priorité européenne du gouvernement allemand, c'est de tenir le club des 27 au moment du Brexit ensemble et de faire en sorte qu'il n'y a pas de division approfondie. Maintenant, avec le gouvernement en Italie, cette tâche devient de plus en plus difficile. Et à mon avis, la conscience politique qu'il faut agir est là, mais quand on parle par exemple de l'approfondissement de la zone euro, et notamment les propositions qu'a fait le président français, la réaction allemande, elle est aussi lente parce que c'est assez compliqué de trouver un compromis franco-allemand. Et maintenant, avec une situation en Italie où il y a un gouvernement qui dit plus ou moins ouvertement qu'il ne veut pas respecter les règles au sein de la zone euro, etc., tout ça compte beaucoup dans le débat interne en Allemagne. Donc le gouvernement, la tâche du gouvernement allemand d'expliquer pourquoi il faut aller en avant au sein de la zone euro est beaucoup plus difficile depuis les élections italiennes.
Daniela, merci de rester avec nous quelques minutes encore. Je voudrais vous demander, Ettore Recchi, je rappelle que vous êtes professeur de sociologie, directeur de l'école doctorale en sociologie à Sciences Po, à Paris. On sait que les Italiens ont énormément reproché, à juste titre, aux autres Européens de les avoir absolument laissés tomber, il n'y a pas d'autre expression, quand il y a eu ce flux de migrants débarquant dans les conditions que l'on sait, tragiques d'ailleurs, sur les côtes italiennes, et certains restant dans la péninsule et d'autres la traversant pour tenter d'atteindre l'Allemagne ou la Suède. Vous me disiez juste avant cette émission qu'un eurobaromètre vient de paraître sur la manière dont les différents citoyens européens perçoivent le phénomène migratoire. Qu'est-ce que cela donne dans le cadre d'Italie ?
Oui, la position des Italiens a basculé et maintenant, de plus en plus, les Italiens ont des positions, une perception de l'immigration très très négative. Les données de cet eurobaromètre qui étaient menées en avril il y a un mois montre que la majorité des Italiens pensent que l'immigration est une chose mauvaise, qu'en Italie, il y a une quantité d'immigrés démesurée. Ils estiment qu'en Italie, il y a 24% de la population qui est immigrée, lorsque le taux réel est 8%. Donc, il y a dans tous les sondages, dans toutes les enquêtes, toujours une surestimation des immigrés, mais jamais à ce niveau-là. En France, par comparaison, les Français disent que les immigrés sont 18% lorsqu'ils sont 9%. Donc, c'est déjà plus modéré.
Oui, enfin, c'est le double quand même.
C'est le double, mais pas
Oui, par rapport aux excès italiens.
Mais disons que la position des Italiens, la pression des Italiens s'aligne à la perception qui ont de l'immigration des pays tels que l'Hongrie, la Pologne, la Roumanie.
Et il y a mais qui, eux, n'ont pratiquement pas d'immigrés.
Qui n'ont pratiquement pas d'immigrés,
ça,
mais où il y a une xénophobie bien connue qui dépend de leur histoire, qui dépend aussi de la configuration des partis politiques dominants et tout ça. Et la majorité des Italiens pensent qu'il y a plus d'immigrés illégaux que d'immigrés légaux. Lorsque les immigrés illégaux sont 500 000, ce chiffre est donné même dans les contrats des gouvernements. Et les immigrés légaux, comme le disait Marc Lazare, sont 5 millions. Donc,
ce qui est frappant dans le contrat du gouvernement, c'est il y a un paragraphe très spécifique sur les nomades, c'est-à-dire sur les Roms. Pourquoi ?
Là, c'est une obsession de la Ligue qui remonte à ses premiers jours. La Ligue a été fondée comme mouvement dans les années 80, Marc me corrigera si je me trompe, avec une plateforme qui était des coupures avec le Sud et d'expulsion des Roms. Donc les Roms ont toujours été en tête de l'agenda de la Ligue. C'est, disons, c'est un des peu points de continuité dans les programmes électoraux de la Ligue. Et je pense que c'est même une obsession personnelle de son leader, Matteo Salvini, qui, quand était jeune activiste de la Ligue, avait...
À Milan,
il avait fait des shows avec des caterpillars pour démanteler des champs de Rome.
Quelle politique ce gouvernement qui, Marc Lazare le rappelle tout au début de cette émission, n'est pas encore formé, et ça s'avère particulièrement difficile, mais quelle politique pourrait ce gouvernement-il suivre s'agissant de l'immigration ? D'abord, expulser massivement des gens ?
Des rapatriements, il parle explicitement des rapatriements forcés. Ben, il pourrait faire des rafles, il pourrait faire beaucoup de politiques symboliques. Vous savez, finalement, c'est de la médiatisation, mais qui paie, qui marche très bien, vu l'état de l'opinion publique que je viens d'illustrer.
Mais même le mouvement 5 étoiles, parce qu'on avait l'impression que l'immigration n'était pas un thème central.
Pas un thème central, mais le mouvement 5 étoiles est très sensible à l'opinion publique. C'est un mouvement qui a été fondé sur la capacité de capter l'opinion publique. La plateforme Rousseau, le Casaleggio, qui est un des fondateurs, qui était un expert en communication. Donc, ils ont su capter que la population italienne était exaspérée et visait, ciblait les immigrés comme bouc émissaire de la souffrance du pays.
Cibler les immigrés et cibler Bruxelles, donc avec l'intention d'exiger des partenaires européens plus de solidarité.
Un partage des coûts aussi, des coûts liés à la gestion de l'immigration, des débarquements, de l'arrivée des réfugiés.
Une politique plus claire, parce qu'on ne peut pas dire que l'Union européenne ait mis au point une politique coordonnée, même si ce n'est pas une politique commune, il faut toujours la rappeler, ce n'est pas une politique commune. Ouais. Néanmoins, il n'y a pas de coordination.
Les recommandations de Dublin, tout le monde en Italie est unanime. Il faudrait les réformer.
Ce qui est présent dans le contrat de gouvernement,
d'ailleurs. Ce qui est présent dans le contrat. Ouais.
Daniela Schwarzer, vue de Berlin, on sait à quel point la pression migratoire a joué dans les dernières élections en Allemagne. Est-ce que là aussi, sur ce plan-là, le gouvernement allemand peut... agir à Bruxelles pour exiger une coordination plus claire des politiques migratoires des 27 ?
À mon avis, c'est absolument nécessaire. Tout d'abord, il faut noter que l'Allemagne, à un certain point, à la hauteur de la crise migratoire, a lentement changé de position sur les accords de Dublin. Tandis que pendant des années...
Les accords de Dublin, il faut le rappeler, c'est un système qui a prouvé à quel point il est inefficace, mais qui exigeait que les pays qui reçoivent les migrants les filtrent d'abord. Et donc, ça explique que l'Italie et la Grèce aient subi le poids des mouvements migratoires depuis quelques années.
Oui, c'est tout à fait correct. Et l'Allemagne a mis beaucoup de temps pour reconnaître que la pression que ce système exerce sur les pays qui sont les premiers pays de contact pour les immigrés, la pression est beaucoup trop forte et que ça entraîne des risques politiques tels qu'on les voit en ce moment, même en Italie. Et donc, voilà, c'était un premier changement de position. Après, l'Allemagne a argumenté pour ce système de relocalisation qui aurait consisté à garantir une diffusion d'immigrés plus équilibrés parmi tous les pays de l'UE. Et on sait aujourd'hui que ça n'a pas marché. Si on regarde les chiffres, en fait, des chercheurs d'asile qui ont été accueillis en Europe de l'Est, on voit très bien que le système n'a pas mené à un vrai équilibre. Et donc, je pense, à mon avis, c'est très clair. Il faut davantage coordonner les politiques européennes. Le gouvernement allemand le voit. Il y a plusieurs éléments. À la fois, la solidarité entre les pays, si ça ne passe pas, comme on l'a appris ces deux dernières années, par un système de relocalisation, il doit y avoir au moins plus de solidarité financière entre les pays. Deuxièmement, la question des contrôles des frontières et aussi un système d'asile européen, à mon avis, est nécessaire. Et à Berlin, je pense que c'est une voie de réflexion aussi de trouver un accord européen sur ce sujet-là.
Daniela, pardon, je vous interromps parce qu'il y a un autre point qui est très évident dans le contrat de gouvernement entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles, et cela concerne la Russie, où il est dit explicitement qu'il faut lever les sanctions que l'Union européenne impose à la Russie depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée et les agissements dans l'est de l'Ukraine. Comment est-ce qu'on réagit à Berlin là-dessus ?
Oui, avec beaucoup de prudence, parce que, comme vous l'avez peut-être vu, le nouveau ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, il a pris une position très forte sur la Russie, et donc le gouvernement...
Dans quel sens ?
Dans le sens de critiquer l'action russe, à la fois en Syrie, en Ukraine, etc. Il y a une continuité dans cette position du gouvernement allemand depuis des années, mais ce qui est intéressant, qu'aujourd'hui un ministre sociodémocrate des Affaires étrangères prend cette position d'une manière encore plus forte, parce qu'il y avait quand même un débat, et il y en a toujours, un débat très fort dans le parti sociodémocrate sur la bonne stratégie vis-à-vis de la Russie. Alors c'est vrai qu'au moment où l'Allemagne reste ou très ferme sur sa position vis-à-vis de la Russie, notamment aussi sur les sanctions, ça pose un vrai problème, la situation en Italie, parce que quand il est question de renouveler le régime des sanctions, s'il y a un pays comme l'Italie qui est contre, alors ce seront des négociations très difficiles pour les convaincre. Et la question est pour moi, est-ce qu'on va trouver un accord avec l'Italie qui peut-être est un accord qui comprend plusieurs volets politiques pour les convaincre à maintenir avec l'UE 27 le système des sanctions contre la Russie.
Oui, il faut rappeler que ce renouvellement donc a lieu tous les 6 mois. Je crois qu'il doit intervenir en principe à la fin juin.
Tout à fait.
Et la décision doit être prise à l'unanimité. Daniela Schwarzer, merci mille fois d'avoir été avec nous par téléphone de Berlin. Marc Lazare, une dépêche à l'instant de l'agence France Presse explique que le bras de fer continue autour du nom du futur ministre des Finances, donc entre le président de la République et les deux formations qui se sont unies en quelque sorte pour essayer de former ce gouvernement. Jusqu'à quel point ce président du Conseil, dont on ne sait pas grand-chose, mais Eric Scholz va nous en dire plus dans quelques minutes, jusqu'à quel point est-ce qu'il peut, lui, avoir les mains libres ? On voit bien que, face au président de la République, ce n'est pas lui qui négocie, ce sont les deux patrons des mouvements qui ont gagné les élections.
Alors, c'est toute la question, hein, c'est de savoir quelle est sa marge d'autonomie. Il a été choisi, ce qui est d'ailleurs un paradoxe, par ces deux mouvements qui n'arrêtent pas de critiquer le fait que les experts déterminent la politique. Ils ont fait appel à lui parce qu'ils ne trouvaient pas d'autre solution. Plus exactement, ils savaient que le président de la République refuserait une autre solution. Le président de la République, lorsqu'il a reçu M. Conte, lui a malicieusement rappelé qu'au terme de la Constitution, c'est le président du Conseil qui détermine la politique du gouvernement, ce qui voulait dire « émancipez-vous de ce contrat de gouvernement ». Lorsqu'il est sorti du palais du Quirinal, c'est-à-dire le palais du président de la République, M. Conte a dit qu'il était, qu'il était en faveur de l'Europe, donc ce qui était un signal envoyé. Et depuis, il essaye de composer avec justement la Ligue et le mouvement 5 étoiles et semble-t-il de faire des médiations sur cette question du ministre de l'Économie et des Finances. On va voir quelle est la substance finalement. Est-ce que c'est juste un petit notaire de province, excusez-moi, Ettore, parce que Ettore est florentin comme Giuseppe Conte.
Et j'étais collègue de lui.
Il va pouvoir tout nous dire.
Il est professeur de droit. Hein, professeur de droit.
Droit privé. Il était jeune comme moi.
Voilà, donc on va tout savoir sur Giuseppe Conte. Est-ce qu'il est un notaire, et avec tout le respect pour Florence, qui a été capitale de l'Italie pour une année, est-ce qu'il est un notaire de province? Cinq années, pardon. Excusez-moi, Ettore, je vois que je touche la sensibilité d'un florentin. Et donc, est-ce qu'il sera un notaire de province, arrivé à Rome et qui exécute, ou est-ce qu'il aura une marge d'autonomie? Il a lancé des petits messages faisant comprendre, il a dit « je suis l'avocat des Italiens ». C'est-à-dire, non pas nous. Donc, ça voulait dire.
Il fallait bien qu'il dise quelque chose, quand même, parce que sa première conférence de presse, on était presque gênés pour lui.
Ouais, mais voilà, on va le voir. On va voir. Et juste, parce que c'est lié, c'est très important cette histoire de la Russie. Et c'est un autre ministère pour lequel le président Mattarella sera très vigilant, le ministère des Affaires étrangères. Il y a aussi le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur.
Ça fait pas mal, c'est
des ministères qui avaient... Non, mais sur les affaires étrangères, c'est très important, parce qu'il ne faut jamais oublier que, enfin, d'après moi, que le mouvement 5 étoiles et la Ligue ont des points de désaccord, mais ils ont des vrais points de convergence. Et notamment sur la question du rapport à la Russie. Hein. Le mouvement 5 étoiles et la Ligue ont toujours été pro-Poutine. Pourquoi ? Parce qu'il y a des intérêts économiques aussi. Hein. L'Italie est le deuxième partenaire commercial des pays d'Europe centrale et orientale, et le deuxième partenaire commercial derrière l'Allemagne avec la Russie. Donc il y a des forts intérêts. Et de ce point de vue-là, le président de la République italienne a bien dit « Attention, on doit continuer notre pro-atlantisme historique depuis la Seconde Guerre mondiale. » Et avec la Russie, même s'il est conscient de ses intérêts économiques, on sait que le président de la République est assez réticent sur cette idée de lever les sanctions.
On découvre d'ailleurs l'importance considérable du personnage.
C'est très important, la présidence de la République. Et il a un argument fort, c'est que c'est une des rares institutions italiennes populaires, hein, parce qu'il est le symbole de l'unité de la nation. Donc il peut jouer lui aussi là-dessus. Mais juste pour terminer, je crois qu'il y a une autre hypothèse qu'il faut mettre sur la table. Je dis bien une hypothèse. C'est que ça intéresse beaucoup M. Poutine, beaucoup, d'avoir éventuellement au pouvoir la Ligue et le mouvement 5 étoiles pour justement essayer de perturber l'Union européenne. Il a là un allié considérable. Et il y a beaucoup d'enquêtes journalistiques qui ont essayé de montrer que la sympathie de M. Poutine à l'égard de la Ligue et peut-être même mouvement 5 étoiles se concrétise matériellement. C'est-à-dire qu'il y a un financement, pour parler clair.
Plus les réseaux sociaux, et on a vu à quel point...
Absolument. Et donc, là, on a un enjeu géopolitique énorme derrière cette affaire. Si ce gouvernement se constitue, si effectivement il cherche à imposer une levée des sanctions au prochain sommet européen, c'est tout bénéfice pour Poutine, qui introduit un coin ici dans l'unité de l'Union européenne. Ça va très très loin dans cette affaire.
Éric Scholl, directeur de Courrier International, qu'avez-vous relevé dans la presse italienne concernant les réactions à ce monsieur Conte, qui est donc censé conduire le prochain gouvernement italien?
La presse lui a réservé un accueil plutôt froid, comme le rappelle le Corriere della Sera. C'est en effet un non-parlementaire qui est appelé à diriger le gouvernement. Ce qui, nous dit le journal, semble pour le moins paradoxal pour des partis qui, hier encore, s'insurgeaient contre, je cite, les quatre premiers ministres successifs non élus que vient de connaître l'Italie, c'est-à-dire Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi ou Paolo Gentiloni. Et non seulement Giuseppe Conte n'était pas parlementaire, mais surtout, ce juriste florentin de 54 ans était jusqu'ici inconnu des Italiens. Lorsque son nom a commencé à circuler en début de semaine, il a d'abord essuyé quelques déboires avec son CV. La presse italienne et américaine l'ont accusé d'avoir un peu embelli ses diplômes. Mais le plus grave n'est pas là. Le plus grave pronostic de la presse italienne, c'est que la tâche qui attend Giuseppe Conte fait figure de mission impossible. Car si son nom a été proposé par la Ligue et par le mouvement des 5 étoiles, les journaux italiens se demandent quel sera le pouvoir effectif de ce technicien, notamment vis-à-vis de Di Maio et de Salvini, auquel il doit son existence politique. Alors, Il Fatto Quotidiano résume la position délicate de Giuseppe Conte par un photomontage à la une montrant le nouveau Premier ministre sur un fil, avec ce titre « L'équilibriste », donc un président du Conseil funambule qui a promis dans son premier discours, Marc Lazare le rappelait, de devenir l'avocat du peuple italien, une formule détournée par le journal Il Tempo qui préfère parler d'avocat commis d'office. Au passage, le quotidien conservateur déplore, je cite, qu'au terme d'un très long entretien au palais du Quirinal, Giuseppe Conte se soit plié aux exigences sur l'Europe et le choix des ministres.
Alors, ce qui est très intéressant aussi, Eric, c'est de voir comment réagit la presse dans les pays de démocratie dite illibérale à l'est de l'Europe.
Oui, alors il y a deux types de réactions, parce que dans ces pays, il y a une presse qui dit plutôt libérale d'opposition, et puis évidemment, il y a des presses proches du pouvoir. Alors on va commencer par la chroniqueuse de l'hebdomadaire de droite polonais, Sieci, qui croit, elle, à un effet boule de neige en Europe. Ainsi écrit-elle, Bruxelles tremble de peur, car l'Italie n'est ni la Pologne, ni la Hongrie, ni l'Autriche, c'est la troisième économie européenne. L'establishment européen perd contre de jeunes politiques qui n'ont pas perdu le contact avec la réalité, sont politiquement incorrects et ne sont pas impressionnés par le relativisme moral et culturel. Si maintenant on regarde en Hongrie, dirigée par le gouvernement de Viktor Orban, eh bien la mise en place de cette alliance populiste en Italie divise la presse locale. Là aussi, les médias proches du pouvoir se félicitent de l'accord du gouvernement, à l'image de ce portail d'information proche du pouvoir 888.hu, qui estime que cette coalition plante un nouveau clou dans le cercueil de Bruxelles. Mais la presse libérale hongroise, elle, s'inquiète. Par exemple, le portail 444 estime que, je cite, « la situation s'annonce encore plus grave que l'énorme grabuge grec ou l'illibéralisme magyar. Les forces anti-mainstream appelées à diriger l'un des pays les plus importants de l'Union européenne n'ont pas caché leur volonté de se tourner vers Moscou et érigent d'ores et déjà Bruxelles en adversaire. » Enfin, en Tchéquie, on retrouve la même préoccupation de la part du quotidien libéral économique Hospodarské Noviny. Je cite ce journal, dans son programme, relève le journaliste, ce gouvernement italien s'est engagé, entre autres, à interdire les francs-maçons. On pourrait encore considérer cette interdiction comme une extravagance, plutôt comique dans la mesure où son application exclurait alors de grands patriotes tels que le leader tant célébré de la résistance contre l'Autriche et la France au XIXe siècle, Giuseppe Garibaldi, ou l'auteur des paroles de l'hymne national, Goffredo Mameli.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine O'Krent.
Francesco Saraceno, je rappelle que vous êtes économiste à l'OFCE. Un mot sur cette interdiction des francs-maçons. Certes, il y a Garibaldi, mais il faut rappeler aussi la loge P2. Et je crois que dans la mémoire italienne, cette loge qui était alors ouvertement fasciste a correspondu à une période particulièrement sombre de l'histoire italienne.
Je pense que Ettore et Marc sont plus en...
Non, mais juste un mot, parce non, que comme Eric vient d'en parler,
c'était un choc pour la démocratie italienne, parce que c'est un des moments où elle a tremblé le plus que pour le terrorisme, paradoxalement. C'est des années sombres dans notre histoire, et c'est vrai que depuis, les francs-maçons sont vus comme, par l'imagination populaire, comme, en fait, des ennemis du peuple. Donc, encore une fois, des mouvements qui sont capables de capter l'humeur profonde du peuple sans trop les filtrer, on cru bon de les pousser sur ces boutons. Mais bon, alors, je pense qu'il y a aussi beaucoup de folklore dans ces contrats. Donc,
Oui, alors revenons donc au programme économique, à la dimension économique de ce contrat. Il faut quand même toujours rappeler le paradoxe de l'Italie, qui a été la bonne élève de l'Europe en ce qui concerne les critères de Maastricht, toujours en dessous de 3%, à différence de la France qui vient d'en sortir, de sortir en tout cas de cette faute-là. En revanche, avec une dette absolument astronomique, hein, plus de 130%.
Oui, mais en fait, c'est là où je pense que c'est très intéressant la constitution de ces gouvernements, parce que c'est vrai que ça pourrait constituer un coup de pied dans la fourmilière européenne qui n'a pas très très bien marché dans les années qui viennent de s'écouler. Et c'est vrai aussi qu'il pourrait pousser, bon, on croise les dents, on a toujours un peu d'optimisme et de la volonté, mais en fait, elle pourrait enfin faire bouger surtout l'Allemagne, qui a été très, très conservatrice dans les débats sur la réforme de la zone euro. Parce que, objectivement, l'Italie, c'est un des pays qui ont le plus souffert pendant la crise, et pas tellement parce qu'ils étaient mauvais élèves pendant la crise, mais parce qu'ils avaient une dette passée, donc en fait un héritage du passé qui n'était pas du fait des Italiens d'aujourd'hui.
Donc, il faut quand même rappeler qu'il n'y a eu aucune croissance. Je crois que c'est Jean Pisaniferi qui a étudié les données économiques sur au moins les 10 dernières années, et qui explique que en critères constants, le revenu par tête a baissé. Enfin, en tout cas, il n'a pas augmenté.
Ouais. En fait, le déclin italien, c'est un déclin qui est un déclin de l'économie réelle. Donc, il n'a rien à voir ni avec la dette, ni avec les déficits, dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, ce n'est pas la dette qui a plombé la croissance italienne, et ce n'est pas le déficit qui va la relancer à long terme. Donc, il faudrait un peu dégager les débats sur la politique budgétaire du débat sur la croissance italienne. La croissance italienne manque depuis au moins le début des années 90, ce qui par ailleurs a été un grand élément de propagande de la Ligue, qui a associé donc le manque de croissance avec le traité de Maastricht et après l'introduction de l'euro. Et c'est un problème de l'économie réelle. C'est une économie qui a des points d'inefficacité dans la capacité de générer de la croissance et de la prospérité qui sont bien connus. C'est le secteur public qui est pas forcément très grand en taille, mais très inefficace. Il y a un système de justice qui est très lent, une bureaucratie qui rend très lourd la création d'entreprises.
Les enquêtes, il faut parler clair, les enquêtes de l'OCDE sur les compétences des adultes, l'Italie en sort très très mal. Les Italiens ne sont pas capables, 70% des Italiens ont des problèmes de compréhension des textes.
Le manque d'investissement public et privé, et la stagnation du capital. Moi, je déteste cette expression, mais elle est très pointue, du capital humain qui est aussi,
aussi.
Dégradé. Un secteur public inefficace, beaucoup des rentes qui sont accumulées aussi dans le système des entreprises, qui souvent, au lieu d'investir, préfèrent investir dans l'immobilier, dans des choses. Donc tout ça ensemble, ça existe bien avant l'euro. Ça a été exacerbé par l'euro, qui a éliminé quelques-unes des flexibilités que l'Italie avait avec la lire, mais c'est pas l'euro qui a causé ça. L'euro a tout simplement rendu ça plus évident. Et donc, de quelque manière, ces deux parties ont un diagnostic qui n'est pas faux. L'Italie est un pays qui a une très grosse crise.
Oui, mais le problème est de savoir si les remèdes...
Et c'est là où, justement, moi, je ne suis pas du tout... Même si, sur Paolo Savona, si je peux me permettre de dire deux mots...
Donc, qui est donc ce vieux monsieur anti-euro... Qui est le
point de controverses entre le président de la République et les deux partis. Moi, si j'étais le président de la République, je serais un peu attentif, parce que dans la galaxie eurosceptique... Il est celui qui a les positions les plus raisonnables, de quelque manière. C'est-à-dire qu'il y a d'autres économistes là-bas, dans ces deux partis, qui sont beaucoup plus radicaux et aussi beaucoup moins capables dans leur analyse. Ouais. Parce que, bon, pour ceux qui nous écoutent, peut-être c'est utile. Savona a une position qui n'est pas très différente de celle qu'on pourrait attribuer ici à Mélenchon. C'est-à-dire, lui, il n'est pas contre l'euro en soi. Lui, il dit l'euro, tel qu'il a été construit et surtout tel qu'il a été géré, a porté un avantage compétitif, et c'est là où son attitude anti-allemande un peu ressort, un avantage compétitif à un pays comme l'Allemagne, qui a toute une filière de production qui est appuyée sur les pays de l'Est, et donc a moins besoin du taux d'échange des autres pays. Et donc, il faut changer l'euro, et si on n'y arrive pas, du coup, les coûts de l'euro sont excessifs et il faut considérer une sortie. Mais la sortie, c'est un plan B, si vous voulez, pour Savona. Et de quelque manière, il est moins radical dans son approche que d'autres économistes qui sont des économistes de référence de ces deux partis, qui sont pour l'introduction d'une monnaie fiscale, donc en fait une monnaie parallèle en Italie, et pour
une
sortie planifiée à terme de l'euro. Lui, il dit qu'on sort de l'euro seulement si on n'a pas... si on n'arrive pas à les réformer dans le bon sens. Et ce n'est pas si mal que ça, en fait.
Et tort est vrai qu'il y a une autre dimension dans la situation actuelle de l'Italie et qui est, je crois, très sous-estimée de l'autre côté des Alpes, c'est la dimension démographique. Parce qu'au fond, c'est un pays de migration interne, d'abord.
Oui, oui, c'est quelque chose qui a remonté dans les derniers 10 ans et qui est en effet... du malaise du pays. Donc les migrations sud-nord ont été relancées fortement. Et après, il y a une deuxième étape qui est l'émigration à l'étranger. L'émigration des Italiens est recommencée. Nous la représentons dans un certain sens.
Oui,
dans
là,
les derniers 9 ans,
deux,
il y a 600 000 Italiens qui sont partis.
Donc c'est l'exode des cerveaux, là.
Et surtout, oui, c'est vrai, si on regarde la composition de cette population, il y a une grande majorité des gens avec des études supérieures. Et c'est la taille d'une ville comme Palerme, donc imaginons.
Mais il y a un autre paradoxe aussi. Oui, on voit d'ailleurs que dans certaines petites villes du Sud, les maires offrent une prime, 2000 euros pour qu'on aille s'y installer. Donc ça prouve à quel point...
Mais oui, ça montre
la
désertification des zones rurales, qui n'est pas seulement un phénomène italien.
Pour revenir à l'histoire de l'immigration dont on avait parlé avant, et il y a aussi des maires des villages en Calabre notamment qui ont donné des appartements gratuitement aux immigrés pour repeupler leur village qui était complètement désertifié.
Oui, donc là, il y a une insertion relative des immigrés dans certaines régions d'Italie. Et une insertion qui se passe plutôt correctement.
Oui, la région la plus riche est aussi la région qui accueille plus d'immigrés, c'est la Lombardie. Après, les immigrés en Italie sont installés pas forcément dans les villes, ce qui est assez singulier. Dans les autres pays, normalement, les immigrés se concentrent dans les villes. Et ce qui, jusqu'à les dernières années, avait aussi permis un certain, accueil positif des Italiens. Il n'y avait pas vraiment des ghettos, il y en a quelqu'un, mais il n'y avait pas une ghettisation des immigrés. Mais ça a changé récemment.
Et alors, qu'est-ce qui a changé? Ce sont les flux traversants, en quelque sorte.
Traversant, mais qui n'arrivent pas à traverser, qui s'installent, qui sont...
Oui, avec les incidents à Vintimille, que l'on a vu à la frontière franco-italienne. Comment est-ce que la société italienne, au sens large, peut réagir? Il y a eu beaucoup d'interrogations, m'a-t-il semblé, sur qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui d'être italien? Quel est le sens de l'identité? Parce qu'on revient aussi à une question qui traverse beaucoup de pays d'Europe, la question identitaire.
C'est un pays très fragmenté, c'est un pays qui est très différent à son intérieur. C'est un pays qui est de plus en plus inégal. Je pense que c'est un peu le petit Brésil de l'Europe, où il y a des zones de grande richesse, des zones de grande pauvreté. Les différences territoriales sont énormes. Il y a des zones où on est au sommet de la richesse européenne, des zones où on est aussi pauvre, je ne dis pas comme en Afrique, mais comme dans les pays les plus pauvres, dans les zones les plus pauvres de l'Europe. La Calabre est très, très pauvre.
Le triangle Milan, Genova, Torino est une région qui est aussi riche que l'Île-de-France.
Oui. Et c'est la région aussi où la Ligue, c'est le berceau de la Ligue du Nord, qui d'ailleurs aujourd'hui, Marc Lazare, s'appelle la Ligue. Cette question de l'identité, jusqu'à quel point est-ce que ce contrat de gouvernement, à supposer que ce gouvernement voit le jour, jusqu'à quel point peut-il y répondre?
Je crois en tout cas que c'est une question. Je ne sais pas comment il veut y répondre, mais ce que je pense, c'est qu'effectivement, il y a un problème d'identité. Parce que, d'abord, il y a cette question migratoire. Encore une fois, en différenciant l'immigration régulière, les immigrés clandestins, les migrants. Bien, ça, je crois que c'est. Et la force de la Ligue, surtout, ça a été d'amalgamer les trois choses. Et c'est donc un premier point. Et un deuxième point, c'est le fait que ce choc et cette perception négative est liée à plusieurs facteurs, mais il y en a un qu'on n'a pas encore dit, qui est le déclin démographique des Italiens. C'est-à-dire que c'est un des pays qui a le plus faible taux de natalité avec l'Allemagne. Et donc, il y a l'idée. On n'est plus, je vais le dire brutalement, on n'est plus chez nous et il y a de plus en plus d'étrangers. En plus, on fait très peu d'enfants.
Le vieillissement aussi
de la population.
Amplifie voilà. Et
d'ailleurs, on retrouve ce facteur démographique en Hongrie. Et dans plusieurs pays d'Europe de l'Est.
Et en Allemagne aussi, hein, qui a le plus faible taux, un des plus faibles taux de natalité. Donc ça, c'est un élément important. Depuis 1994, c'est-à-dire depuis que Silvio Berlusconi est entré en politique avec son parti qui symboliquement s'appelait Forza Italia, et s'appelle toujours Forza Italia, c'est comme si en France, on avait une formation qui s'appelait Aller les Bleus, hein, a remis, d'après moi, la question de la nation au cœur du débat politique. Et d'ailleurs, au moment de 2011, c'est-à-dire au moment du 150e anniversaire de l'Italie, ça a été une grande discussion. Par exemple, le président de l'époque, le président de la République, Napolitano, développer l'idée, qu'est-ce que c'est qu'être italien? Je vais le dire un peu rapidement, c'est le patriotisme constitutionnel, c'est parce qu'on est fier de notre constitution. Puis il y a d'autres propositions qui ont été faites en disant non, être italien c'est avant tout être catholique par exemple, hein, il y a eu tout un débat qui s'est noué. Et s'il y a un autre point d'accord entre la Ligue et le Mouvement 5 étoiles, quand vous lisez le programme de 58 pages de ces deux formations, c'est l'idée de la souveraineté nationale. C'est ça qui sous-tend tout, qui essaye de donner de la cohérence à ce patchwork, qu'à ce copier-coller des deux programmes. C'est la souveraineté nationale. Et c'est dit, on va réaffirmer la souveraineté nationale de l'Italie par rapport aux règles de la communauté européenne. Et ça, le mouvement 5 étoiles et la Ligue ont ce point d'accord. Hein. C'est, d'après moi, c'est l'idée, retrouvons, recouvrons notre dimension nationale.
Alors, Italia prima,
voilà, prima Italia.
Prima Italia.
Ou Italia prima, innanzitutto l'Italia. Bon, mais en tout cas, je crois que c'est un élément fort. Et toute attaque actuelle, notamment celle qui a été faite par Bruno Le Maire dimanche dernier, les différents avertissements de la Commission européenne, ce qui peut venir d'autres capitales européennes, disant aux Italiens attention, attention, ça ne fait que renforcer le pacte entre le Mouvement 5 étoiles et la Ligue, qui immédiatement, avec une formidable capacité de riposte, ont immédiatement dit « mêlez-vous de vos affaires ». Et nous, on est Italiens. Et ça, je suis sûr que quand on va avoir des enquêtes d'opinion là-dessus, ça va être plébiscité par les Italiens. Et en particulier dans la relation avec la France, où on sait quand même la relation très compliquée qui existe entre nos deux pays. D'amour et, je dirais pas de haine, mais de rancœur, d'énervement contre l'arrogance française.
Et il y a eu d'ailleurs une étincelle très symptomatique quand le Financial Times, qui est quand même la bible des milieux patronaux aussi en Italie, a qualifié ces nouveaux venus, si l'on peut dire, de barbares. Et alors, aussitôt, Di Maio a dit, en gros, mais alors pour qui vous prenez-vous?
Non, il a dit, nous sommes peut-être barbares, mais libres. Et nous ne sommes pas des serfs. Il faut pas sous-estimer la capacité politique de Salvini et de Di Maio, hein, qui ont des capacités de réplique. Ça a été un effet boomerang. Et surtout, ça ne fait que conforter justement les soutiens de ces deux mouvements.
Dans la Ligue originale, il y avait un barbare
avec
son épée.
Oui, c'est vrai. Enfin, c'était le chef de ce qu'on appelait à l'époque au Moyen-Âge la Ligue Lombarde.
Exactement.
Donc voilà, tout ça, je crois qu'il faut faire très attention aux réactions. Et ça ne vous a pas échappé, Christine, que le président Macron a commencé hier en Russie à faire une petite ouverture en direction de l'Italie. Parce qu'il se retrouve dans une situation infernale, notre président de la République. Son projet européen est rejeté par les pays de l'Europe du Nord, pour des raisons différentes par les pays d'Europe centrale orientale. On a entendu tout à l'heure qu'en Allemagne, quand même, il y a une grande circonscription.
Ce n'est pas franchement l'enthousiasme.
Maintenant, il y a la situation italienne. Du coup,
il y aura peut-être des élections en Espagne aussi.
Il y aura peut-être des élections en Espagne. Donc, quel est le positionnement de Emmanuel Macron et d'ailleurs de La République En Marche? On voit bien, c'est de dire finalement, en Italie, quel serait notre seul allié potentiel? Le mouvement 5 étoiles, parce qu'il pense...
Pourquoi ?
Bah parce qu'ils pensent, ils font le raisonnement que le mouvement 5 étoiles est peut-être moins anti-européen que la Ligue. Et c'est vrai qu'il y a quelques nuances entre les deux, c'est vrai. Et par conséquent, peut-être qu'ils ont l'idée d'essayer de diviser un peu le mouvement 5 étoiles et la Ligue et de dire qu'ils ont en quelque sorte tendu une main. Il y a eu un article dans La Repubblica qui est paru hier soir sur le site, très intéressant, de la correspondance de ce journal, Anaïs Ginori, qui a dit qu'elle avait eu un déjeuner avec un conseiller très très proche du président, bon, et qui en gros disait il faut maintenant avoir une attitude réaliste avec l'Italie, on ne peut pas faire autrement, et en gros jouer la carte du mouvement 5 étoiles. C'est-à-dire, parce que finalement, ce que rappelait Francesco Saraceno, c'était très important ce qu'il disait, parce qu'il y a une partie du programme qui finalement revient à ce que dit la France depuis des années, il faut desserrer en quelque sorte la rigueur. Et donc, essayer de prendre cet aspect considéré comme positif par le président Macron et le gouvernement, pour essayer éventuellement d'attirer le mouvement 5 étoiles, d'amortir en quelque sorte le choc, peut-être parce que cette alliance ne durera pas. Moi, si jamais ce gouvernement est constitué, il y a trop de différences entre eux, il y a trop de divergences politiques, programmatiques, le fait que les électorats sont différents, le mouvement 5 étoiles est plus dans le sud et la Ligue est quand même plus dans le nord, c'est des intérêts électoraux très différents, il y a la rivalité personnelle entre les deux, et donc peut-être que leur projet, c'est de se dire à un moment donné, ça va éclater, et donc avec le mouvement 5 étoiles, on pourra peut-être, si jamais il continue d'être au pouvoir, réaliser quelques compromis.
Mais cela veut dire aussi, quelle que soit la créature, si j'ose dire, qui sort de ce nouveau laboratoire, créature, je veux parler de ce gouvernement, de toute façon, les causes demeurent. Et donc aussi les raisons d'inquiétude dans tous nos pays européens, parce qu'on voit bien que la pression migratoire a cet impact, et encore une fois, on revient à l'eurobaromètre que Ettore Recchi citait au tout début de cette émission. Donc, la question identitaire, et aussi cette impression probablement diffuse que, bon, l'Europe se crispe sur elle-même, chacun de nos pays se crispe sur lui-même, et où est l'élan? Peut-être chacun un mot de conclusion. On arrive à la fin de cette émission, Francesco Saraceno.
Non, mais je partage totalement votre avis, en fait. Le succès de ce parti n'est pas très différent du succès de Marine Le Pen ici. Elle a encore un plafond, mais elle a quand même eu un succès assez remarquable aux dernières élections. Il n'est pas différent du succès des nationalistes en Hongrie, en Allemagne. Donc, c'est le peuple européen qui, aujourd'hui, ne se sentent plus représentés par l'Europe. Donc cet élan dont vous parliez n'existe plus, l'Europe n'est plus un moteur de croissance et n'est plus un moteur de convergence. Alors pour ceux qui sont laissés derrière, il n'y a que l'appel des partis qui disent qu'il faut sortir de l'Europe en fait.
Ettore Recchi.
Oui, il n'y a pas de convergence en Europe, il peut y avoir des alliances. Et là, je trouve que Macron a encore un rôle à jouer, surtout s'il y a, comme je le disais, des nouvelles élections en Espagne, et apparemment le mouvement qui va l'emporter, c'est Ciudadanos, qui est très proche, je dirais, c'est une version...
Et très pro-européen, pour le coup.
Et c'est une version espagnole de En Marche. Et j'ai une note d'optimisme. Si le mouvement 5 étoiles, qui est un peu flou, prend un peu un côté En Marche, peut-être qu'on aura une coalition du sud de l'Europe.
Marc, Lazare, un mot.
Oui, c'est très simple.
Un mot.
Il n'y a pas d'anomalie italienne. L'Italie nous sert de laboratoire pour toute l'Europe. Donc, c'est l'élément fondamental.
Merci donc à vous quatre, à vous cinq. Merci à vous, Marc Lazare. Vous venez de publier en italien Popolocrazia avec Ilvo Diamanti et vous avez dirigé chez Fayard l'Italie contemporaine. Merci à vous, Francesco Saraceno, économiste à l'OFCE. Merci à Ettore Recchi. Vous avez contribué à un ouvrage collectif en anglais sur la question de la citoyenneté européenne. C'était en 2017. Merci bien sûr à Daniela Schwarzer qui était avec nous de Berlin. Merci à Eric Scholl. Luc-Jean Reynaud était, comme tous les samedis, à la réalisation. Pierrick Mancini à la technique. Merci à Meryl Moneghetti et Marguerite Maubert qui ont préparé cette émission. Et maintenant, comme chaque samedi, vous avez rendez-vous avec Hervé Gardette. Très bon week-end. À samedi prochain.
France Culture, l'esprit d'ouverture.